8,7 millions. Tel est le nombre d'espèces animales et végétales recensées dernièrement sur notre planète. Pour la science, cette extraordinaire variété des êtres vivants est par ailleurs merveilleusement unie dans une biosphère, elle-même composée des multiples réseaux de relations que sont les écosystèmes. Aussi, les écologistes et le pape François peuvent-ils rappeler avec raison que s'attaquer à une seule espèce naturelle, c'est à terme s'attaquer à l'univers tout entier. Diversité et unité, tels sont donc les deux maîtres mots appropriés pour décrire la création de Dieu. Cette diversité et cette communion des êtres naturels offrent l'occasion au pape François, dans la deuxième partie de son encyclique, d'une méditation théologique et spirituelle. Par là, le Saint-Père entend dépasser le point de vue scientifique, le point de vue des sciences naturelles, pour adopter une perspective plus englobante, la perspective de la foi, qui en fait coïncide avec la perspective de Dieu lui-même. En embrassant par la foi le regard de Dieu sur la création, nous allons comprendre en quoi la crise écologique que nous traversons est le symptôme d'une crise qui certes est technique, culturelle, morale, mais qui fondamentalement est une crise d'ordre spirituel. Ici, comme je viens de le dire, je procéderai en deux temps. Tout d'abord, à la suite du pape François, je présenterai à grands traits la signification chrétienne de la nature envisagée comme communion dans la diversité. Puis, dans un second temps, j'essaierai de montrer la portée écologique des mystères du péché originel et de la rédemption. Alors tout d'abord, arrêtons-nous sur le sens divin de la nature envisagé comme communion dans la diversité. Dieu a créé le monde pour, à travers lui, se révéler à l'homme. Comme l'affirme saint Bonaventure, Dieu a créé le monde non pour accroître sa gloire, mais pour, à travers lui, manifester et communiquer cette gloire. Ainsi, au regard du croyant, la nature tout entière et chacune de ses propriétés sont une manifestation de Dieu et une invitation à communier à la gloire du Créateur. Pour manifester ces vérités, la littérature chrétienne a souvent comparé la nature à un livre qui aurait été écrit par Dieu puis offert à l'homme. Cette image, qu'on trouve dans Laudato Si, se retrouvait déjà au IVe siècle dans la bouche de saint Antoine d'Égypte, ermite dans le désert de Nitrie. Un philosophe demanda un jour à saint Antoine: « Père, comment pouvez-vous être si heureux alors que vous êtes privé de la consolation que donnent les livres ?» Antoine répondit: « Mon livre, ô philosophe, c'est la nature, et quand je veux lire les paroles de Dieu, ce livre est toujours devant moi. » Saint Jean-Paul II n'affirmait pas autre chose lorsqu'il disait que Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Selon la tradition chrétienne, Dieu nous dit principalement deux choses dans le livre de la création. Tout d'abord, qu'il est un et trine. Ensuite, qu'il veut sceller avec nous une alliance d'amour. Arrêtons-nous brièvement sur chacune de ces deux significations. Tout d'abord, le livre de la création nous dévoile Dieu lui-même. C'est une vérité que le livre de la sagesse enseignait déjà aux Hébreux. La grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Que le monde est signe de Dieu, il s'agit là d'une conviction partagée par beaucoup, y compris par les non-croyants. Par exemple, Albert Einstein écrivait que dans les lois de la nature se manifeste une raison si supérieure que toute la rationalité de la pensée et du vouloir humain semble, par comparaison, être un reflet absolument insignifiant. Même Voltaire avouait comme à regret, je cite, « L'univers m'embarrasse, mais je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. » Si chaque être naturel est signe du Créateur, cela est encore plus vrai de la nature dans son ensemble. Comme le note l'encyclique, saint Thomas d'Aquin faisait remarquer avec sagesse que la multiplicité et la variété proviennent de l'intention du premier agent, qui a voulu que ce qui manque à chaque chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par les autres, parce qu'une seule créature ne saurait suffire à représenter comme il convient sa bonté. Lorsque je suis devant un seul être naturel, c'est un reflet qui n'est pas encore assez beau pour décrire Dieu.